Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de prier avant la prédication. Père Céleste, on se présente devant toi, devant ta parole. Et je te prie pour que mes mots soient clairs, pour que tu bénisses ta parole, Seigneur, dans les cœurs, que tu rejettes tout ce qui est du domaine de l'humain, mais que tu gardes le message que toi, tu veux transmettre, Seigneur. Et c'est le contenu de ces textes qui nous intéresse. Père Céleste, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont réunis ici ce matin, veuille permettre qu'ils soient attentifs, qu'ils puissent saisir pour eux les vérités de ta parole qui vont être appliquées et applicables au quotidien, Seigneur, et glorifie-toi encore ce matin, c'est vraiment notre désir dans ce rassemblement. Amen. Alors ça fait trois dimanche maintenant, que nous prêchons sur le prophète Joël. C'est une série de prédications, de cinq prédications, et la prédication que l'on a aujourd'hui, c'est la prédication qui est la prédication centrale, au sens où c'est la troisième parmi les cinq, mais c'est aussi une prédication centrale dans le sens où le texte que l'on va partager ensemble ce matin est un texte qui est vraiment le texte central du livre de Joël. Et avant de le lire, de manière à ce que tout le monde puisse être accroché à la lecture de ce texte, je voudrais juste rappeler rapidement, remettre en place le contexte du prophète Joël. Joël est un prophète de l'Ancien Testament qui a probablement écrit 830 ans avant notre ère. Un prophète, c'était une personne qui parlait de la part de Dieu, qui communiquait un message de la part de Dieu au peuple. Le pays dans lequel était Joël, c'était la Juda, vivait une période qui était très difficile, terrible. Une grande invasion de sauterelles avait tout ravagé dans le pays, culture, bétail. On était dans une période de manque dans le territoire de Juda. Et puis s'en est suivie une période de sécheresse. Et Joël dit que cette invasion de sauterelles et cette période de sécheresse sont en réalité des jugements de la part de Dieu. Et il doit communiquer ce message au peuple, non pas juste pour annoncer le jugement, mais aussi pour dire au peuple de se repentir. Revenez à moi, revenez à moi. C'est un jugement que je prononce contre vous, mais il y a une porte de sortie. Et si vous vous repentez, alors Dieu lui-même interviendra pour vous restaurer. Et après ça, dans le texte, et dans le texte qu'on va lire ce matin, on a l'impression qu'il y a une sorte de rupture. On se dit, c'est pas possible, c'est un autre livre qui est en train de s'ouvrir. Et ce qui fait qu'il y a certaines versions de Bible qui ont pris le parti de dire, ben là, on va changer de chapitre du livre de Joël. Et donc, pour certaines Bibles, ce qu'on va lire ce matin est dans le chapitre 3. Et puis, pour d'autres versions de Bible, c'est dans le chapitre 2, les versets 28 à 32. Et ainsi, ils ont voulu marquer une continuité dans le texte. Et ça n'a pas beaucoup d'importance en l'occurrence. Mais le texte qu'on va lire ce matin est en fonction de vos Bibles, soit dans Joël au chapitre 3, soit dans Joël au chapitre 2, les versets 28 à 32. Et je vous invite à lire ce texte avec moi maintenant. C'est un texte qui est un texte clé. Un texte qui annonce ce que l'on appelle l'effusion de l'Esprit pour toutes les nations. Et c'est le titre de cette prédication, la promesse de l'effusion de l'Esprit pour toutes les nations. Et donc je vous invite à lire dans Joël 3, dans les Bibles qui sont dans les bancs, c'est page 588, si vous voulez chercher ce texte de ce petit prophète. Et dans un premier temps, dans les quatre premiers versets, c'est Dieu qui parle, et ensuite le prophète donne une conclusion. Donc Dieu prend la parole et voilà ce qu'il dit. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Si on regarde la structure de ce texte, on voit déjà qu'il y a comme deux strophes au début, la première strophe qui est constituée des deux premiers versets, qui parle du salut. Et puis ensuite, une deuxième strophe qui est constituée des versets 3 et 4, qui parle du jugement. Et puis, cette phrase de conclusion, ce verset 5 de la part du prophète, qui reparle du salut. Et c'est en quelque sorte comme si, structurellement, dans le texte déjà, on voyait que le jugement était encadré par deux zones de salut. Et c'est une manière, et les prophètes à l'époque s'exprimaient d'une manière qui était très poétique aussi. Et c'est une manière pour le prophète de mettre l'accent sur le fait que Dieu est un Dieu de salut, que Dieu veut le salut des pécheurs. Il ne veut pas condamner les pécheurs, il veut qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Et c'est une manière pour le prophète de mettre l'accent, cet encadrement du jugement par le salut. Alors le plan que je vous propose dans cette prédication suit le découpage du texte, tout simplement. Et ce que je vous propose, c'est trois points de prédication ce matin. Tout d'abord, cette annonce, cette promesse que le Saint-Esprit est promis à toutes les nations. Il y a dans un deuxième temps un jugement terrible qui vient et qui a même déjà commencé. Mais le salut est possible et il se trouve en l'Éternel. Dans cette prédication ce matin, je vais beaucoup plus largement m'étendre sur les deux premiers versets, parce que ce sont des versets qui ne sont pas forcément simples à comprendre, et c'est en même temps le message central du livre de Joël. Ce point culminant, le paroxysme de l'effusion de l'Esprit pour toutes les nations. Donc je vais vraiment très largement m'attarder sur ces deux premiers versets, et puis j'irai beaucoup plus rapidement sur les trois versets qui suivent. Si on regarde le texte, ce texte commence par une indication de temps. Après cela, et ça situe ce que dit le prophète Joël dans un futur qui est un futur très vague. Après cela, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va se produire au moment où Joël énonce cette prophétie, mais il se trouve que nous savons, nous, chrétiens du 21e siècle, précisément quand cette prophétie s'est accomplie. Et cette prophétie, elle s'est accomplie dans le livre des Actes, en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. On lira tout à l'heure ce texte d'Acte 2, le jour de la Pentecôte. Mais nous qui sommes chrétiens du 21e siècle, on peut se retourner sur l'histoire et voir quand est-ce que cette prophétie de Joël s'est accomplie. Et on ne va pas se priver de jongler un peu entre ces deux textes, parce que quand on étudie une prophétie, ce n'est pas toujours simple de savoir où est-ce qu'on va, comment est-ce que ça s'articule. Mais on est témoin et on est lecteur de l'accomplissement de la prophétie que Joël a donnée ici, donc on ne se privera pas d'aller dans Acte 2. Ce texte nous dit aussi que Dieu prend la décision, et c'est lui-même qui parle, il prend la décision de déverser son esprit. Dans d'autres versions, peut-être vous avez « je répandrai mon esprit », mais le texte, enfin le verbe qui est utilisé ici étymologiquement, ça donne l'idée d'un liquide. Comme un liquide, comme si vous aviez un grand seau et que vous jetiez un grand seau. Mais pas qu'une fois. Encore et encore et encore et encore. C'est-à-dire que l'idée qui est donnée à travers ce verbe déverser ou répandre, c'est l'idée de se placer sous une pluie qui n'est pas une petite pluie fine, mais c'est une pluie diluvienne, qui, lorsque vous vous placez dessous, est une pluie qui vous humidifie complètement. Et ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est tellement fort dans la prophétie de Joël, et vous verrez que c'est tellement fort aussi dans l'accomplissement de cette prophétie. C'est un liquide qui est répandu en abondance. Et c'est intéressant dans le contexte du livre de Joël, parce que, comme je l'ai rappelé juste avant, et comme ça a été prêché sur les deux derniers dimanches, le pays de Juda vit une période de manque. Les sauterelles sont passées, elles ont tout mangé, elles ont tout ravagé, tout saccagé. Et Juda est dans le manque. Et s'ensuit de cette période de manque une période de sécheresse. Et déjà dans le chapitre 2, notre Dieu prend la décision de dire « Je vous restaurerai. Si vous revenez à moi, je vais réparer tout ça, je vais restaurer tout ça. Et dans le chapitre 3, il y a comme un paroxysme, un point culminant qui est là pour dire, mais ce que je vais réparer physiquement dans le peuple, spirituellement, je vais aller au-delà, je vais répandre mon esprit. Là où il y avait du manque, maintenant il y a une profusion. Là où il y avait la sécheresse, maintenant il y a comme ce liquide, cette pluie diluvienne qui s'abat par l'intermédiaire du symbole du Saint-Esprit. Et c'est ça qui marque la continuité du texte, ce contraste entre ce qui est dit dans le chapitre 1 en particulier, du manque et de la sécheresse, et puis ici, l'abondance de l'Esprit, qui vient comme une pluie abondante. Et cet Esprit, il est déversé sur tout être humain. Et ça, c'est une expression qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que certains ont pensé que sur tout être humain, c'est sur toutes les personnes qui sont sur la face de la terre. Mais en réalité, l'Écriture n'enseigne pas ça du tout dans sa globalité. Et en plus de ça, dans le texte, on a un indice de ce que Joël et de ce que Dieu disait ici par la bouche du prophète Joël. Quand vous regardez dans la suite du texte, il y a une liste, une énumération de personnes. Vos fils, vos filles, les jeunes gens, les vieillards, les serviteurs, les servantes. Et c'est une liste, une énumération de personnes qui est là pour dire « Mais Dieu va donner son esprit sans plus aucune considération de sexe, sans plus aucune considération de catégorie sociale, sans plus aucune considération d'âge, sans plus aucune considération de catégorie de personne. C'est fini. » Dieu prend la décision de donner son esprit à tous les croyants, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur catégorie sociale, quelle que soit leur origine. Je ne sais pas si, pour nous qui sommes chrétiens du 21e siècle, on regarde ça et puis on a les mains dans les poches et puis on se dit « Ouais, ok, c'est bien. » Parce qu'on vit ça déjà aujourd'hui. On le vit pleinement. Mais au moment où le prophète Joël écrit ces choses, c'est une révolution. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire avant la Pentecôte, Dieu donnait son esprit d'une manière particulière. Il choisissait certaines personnes, et en particulier dans le peuple d'Israël, des personnes qui étaient une sorte d'élite spirituelle, entre guillemets, des prophètes, certains rois, les patriarches, et à eux, il leur donnait, en quantité modérée, le Saint-Esprit. Juste quelques personnes. Et là, Dieu, par la bouche du prophète Joël, dit « Ça, ça va se terminer. Ça, ça va s'arrêter. Un jour, je donnerai mon esprit, l'esprit de Dieu lui-même, à l'ensemble des croyants, sans plus aucune distinction d'origine, de provenance, de catégorie sociale et de toutes les catégories que vous voulez. » Et c'est ça le point majeur de cette prophétie. Dieu qui répand son esprit abondamment sur tous les croyants, sans plus aucune distinction. Et cette prophétie, elle s'est accomplie plus de 800 ans plus tard, un jour de Pentecôte. Et je vous invite à tourner les pages de vos Bibles, et on va lire ce texte d'Acte 2. C'est une grosse portion de texte. Mais j'ai demandé à Marion de lire Acte 2, versets 1 à 24, et puis les versets 32 et 33. C'est dans les Bibles qui sont devant vous, page 707. Marion.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux et venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois, arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se dirent les uns aux autres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux !» Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le sujet, le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort et il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne.
Et on saute au verset 32.
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant.
Merci. Vous avez devant vous l'accomplissement de cette prophétie de Joël. Pierre le dit clairement, c'est ce jour-là, le jour de la Pentecôte, que la prophétie de Joël s'est accomplie. Si je résume, il y a 120 disciples qui sont assemblés à Jérusalem. Ils sont au même endroit. Et puis, au même endroit, il y a des Juifs qui sont des pèlerins, donc qui viennent d'autres pays ou d'autres territoires et qui sont de passage à Jérusalem à l'occasion de la fête de la Pentecôte qui se célébrait déjà à cette époque-là. Mais ils n'habitent pas sur place. Ils sont juste de passage. Et puis, d'un coup, le Saint-Esprit arrive et se déverse sur les 120 disciples qui se mettent à parler des merveilles de Dieu dans la langue des personnes qui étaient de passage. Ces personnes qui étaient de passage sont attirées par le grand bruit qui a lieu, ils viennent vers les disciples, ils entendent parler leur propre langue qu'ils reconnaissent. Et quand ils reconnaissent leur propre langue, l'apôtre Pierre enchaîne et il va présenter le message de l'Évangile à ces personnes. De manière à ce qu'ils le comprennent bien. Et que lorsqu'ils rentreront chez eux, lorsque leur temps de fête de la Pentecôte aura terminé et qu'ils retourneront chez eux, ils auront pu entendre dans leur propre langue le message de l'Évangile pour qu'ils puissent le répéter à d'autres. Et qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont rentrer chez eux? Ils auront entendu parler dans leur propre langue du message de l'Évangile. Ça aura été limpide, ça aura été clair. Et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont pouvoir dire que le Messie qui était attendu depuis si longtemps par les Juifs et toutes les personnes qui sont rassemblées ici sont des Juifs. Et ils sont en train d'attendre le Messie. Et que le Messie qui était attendu depuis si longtemps, il est venu. Il s'appelle Jésus-Christ et il n'y a de salut en aucun autre. Et ils vont pouvoir rentrer chez eux, annoncer ça dans leur propre langue aux personnes de manière à ce qu'ils le comprennent. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est absolument extraordinaire. Bien entendu, le fait qu'ils se mettent à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises au préalable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on regarde ce que dit l'apôtre Pierre, et quand vous regardez la suite du texte, à aucun moment l'apôtre Pierre ne revient sur ça. Qu'est-ce qui a marqué l'apôtre Pierre ? Ce qui a marqué l'apôtre Pierre, c'est de dire « Aujourd'hui s'accomplit la prophétie de Joël. » Aujourd'hui s'accomplit la prophétie de Joël. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie ? Elle dit que le Saint-Esprit sera donné à toutes les nations. Et Pierre est marqué par ça. Et il va le dire à tous ceux qui sont réunis ici. C'est une nouvelle ère. C'est quelque chose qui s'ouvre et qui est complètement nouveau. C'en est fini de l'ancienne dispensation de l'Esprit. C'est un mot un peu compliqué qu'on utilise, juste pour dire comment est-ce que Dieu donnait l'Esprit. C'est fini. Dieu qui donne l'Esprit uniquement à quelques personnes choisies. Maintenant, Dieu donne son Esprit à tous les croyants. Et c'est là-dessus que l'apôtre Pierre se met à insister. Ces pèlerins vont rentrer chez eux et ils vont présenter le message de l'Évangile. Et c'est magnifique quand on lit ce texte, parce que vous avez devant vous une naissance. Vous avez la naissance de l'Église. Ce jour-là, Marion vient de lire le texte qui donne naissance à l'Église. Et ce qui est magnifique, c'est que plus de 800 ans avant, un gars, Joël, a eu les mots dans sa bouche qui ont été donnés par Dieu lui-même et qui a annoncé plus de 800 ans avant la naissance de l'Église. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça absolument extraordinaire d'assister à cette naissance de l'Église qui n'est pas un plan B. L'Église, c'est le plan A de Dieu. Il a voulu l'Église, il l'a prophétisé 800 ans avant cette naissance. Et dorénavant, ce n'est plus l'appartenance à un peuple, à une nation qui va constituer le peuple de Dieu, mais c'est le don du Saint-Esprit. Et c'est le jour de la Pentecôte que va commencer la réponse au grand mandat missionnaire que Jésus avait donné à ses disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples, toutes les nations. Et le jour de la Pentecôte, les gens, les pèlerins vont pouvoir retourner chez eux et toutes les nations vont entendre le témoignage de l'Évangile. C'est le commencement. Dieu a la réponse au grand mandat missionnaire. J'ouvre juste une courte parenthèse. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux catégories de chrétiens. D'un côté, ceux qui auraient reçu le Saint-Esprit ou qui auraient été baptisés dans le Saint-Esprit, et d'un autre côté, ceux qui seraient des chrétiens ordinaires, entre guillemets, qui seraient en attente d'une seconde expérience. La prophétie de Joël met l'accent sur le fait que c'est justement le don du Saint-Esprit qui incorpore tous les croyants dans le peuple de Dieu. Il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Le Saint-Esprit est donné à tous les chrétiens le jour de leur nouvelle naissance, le jour de leur conversion. Et Dieu incorpore les chrétiens de cette manière-là dans le peuple. Il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas chrétienne. Et réciproquement, une personne qui a le Saint-Esprit est un chrétien. Je laisse ici juste, et vous l'aurez lorsque vous reprendrez la prédication, mais un commentaire, un extrait du commentaire de Grudem à ce sujet-là, mais qui parle de cette question. Je vais gagner un peu de temps en sautant cette partie de commentaire, mais vous pourrez le reprendre sur la question de cette seconde expérience. Je lis juste la fin. Le baptême du Saint-Esprit se produisit à la Pentecôte pour les disciples, et pour nous, il eut lieu au moment de notre conversion. Ce n'est pas une seconde expérience, c'est une première expérience. Et lorsque l'on lit le acte 2, on se rend compte qu'on est dans une période de transition de l'Église. On est dans une période où il y a la naissance de l'Église et où il y a des personnes qui se sont converties et puis le don du Saint-Esprit n'avait pas encore été fait et il fallait que ce soit une seconde expérience pour eux, c'était inévitable. Mais pour nous qui vivons cette période pleine de l'effusion de l'Esprit, c'est plus une deuxième expérience, c'est emboîté l'un dans l'autre. Conversion, don du Saint-Esprit, sans emboîter l'un dans l'autre. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait que des Juifs qui étaient présents. Et rien que là, alors qu'il n'y avait que des Juifs qui étaient présents, rien que là déjà c'était choquant. Mais quelque temps plus tard, dans Actes, au chapitre 10, pour ceux qui prennent des notes, en Actes 10, on retrouve quelqu'un qui s'appelle Corneille, qui est un officier romain. On ne va pas prendre ce texte, mais dans Acte 10, on retrouve Corneille, cet officier romain, qui est un païen, un non-juif. Et le même apôtre Pierre, et c'est tellement beau, encore une fois, le plan de Dieu, de voir que Dieu prend le même apôtre qui a été témoin de tout ce qui s'est passé. Les autres aussi l'ont été, mais c'est Pierre qui a pris la parole dans Acte 2 et qu'on retrouve dans Acte 10. Et Pierre, au moment où il dit que la prophétie de Joël s'est accomplie en Acte 2, il n'a pas encore compris jusqu'à quel point elle s'est accomplie. Et quand il arrive en Acte 10 et qu'il tombe sur cet officier romain, que le Seigneur a préparé le cœur de l'apôtre Pierre, parce que c'était tellement dur pour lui de reconnaître que ce n'était pas juste toute chair, mais juive quand même, quoi. Mais que, y compris les païens, étaient bénéficiaires de ça. Et Pierre arrive devant Corneille, et devant lui, le Saint-Esprit vient sur Corneille. Et là, Pierre le regarde, et il dit, dans Acte 10, versets 34 et 35, « Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et Pierre comprend là toute l'ampleur, la profondeur, l'explosion de la prophétie de Joël au chapitre 3. Et il comprend que c'en est fini même d'une appartenance, même d'une circoncision, même de toutes ces choses-là, c'est terminé. Dieu donne son esprit indistinctement à tous les croyants. Est-ce que vous avez remarqué que Pierre, dans Acte 2, cite la totalité de la prophétie de Joël ? Il ne parle pas uniquement de toutes les nations, de l'effusion du Saint-Esprit, mais il cite aussi la partie sur les jeunes gens auront des rêves et les vieillards des visions. Et pourtant, quand on lit Acte 2, à aucun moment on voit de rêve et à aucun moment on voit de vision. Et Pierre dit... La prophétie s'est accomplie. Alors, ça peut paraître un peu bizarre. Dans l'Ancien Testament, en fait, les visions et les rêves étaient donnés à des personnes qui caractérisaient l'activité prophétique. C'est-à-dire que quand quelqu'un disait bah, « j'ai reçu un rêve ou une vision de la part de Dieu », ça faisait de lui un prophète. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Ça caractérisait l'activité prophétique, les rêves et les visions. Est-ce que... Joël est en train de dire ici, ce que Dieu est en train de dire par la bouche de Joël, c'est que cette catégorie, toutes ces catégories de personnes, dorénavant, dans un sens large, ce sont des prophètes. Les amis, si vous avez reçu le Saint-Esprit, dans un sens large, et on va définir ce que c'est, mais dans un sens large, vous êtes des prophètes. C'est quoi un prophète dans le Nouveau Testament ? Un prophète, dans le Nouveau Testament, on le voit, et en particulier dans Acte 2, mais dans plein d'autres textes aussi, où quand on voit que les personnes reçoivent le Saint-Esprit, il y a deux choses qui se mettent en route. Et dans le texte d'Acte 2, on vient de le voir, au verset 11 par exemple, il parle des merveilles de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'adoration qui arrive. Et la deuxième chose, le témoignage de Jésus-Christ. Ils se mettent à parler de l'Évangile. Ils se mettent à diffuser l'Évangile. Et il y a deux caractères principaux des prophètes dans le Nouveau Testament. Ils ouvrent la bouche de manière à adorer leur Dieu et ils ouvrent la bouche de manière à partager le message de l'Évangile. Ça, c'est les deux activités majeures des prophètes dans le Nouveau Testament. L'adoration et le témoignage. Il y a un très bon commentaire sur le livre de Joël qui a été écrit par Sylvain Romerovski. Et voilà ce qu'il dit dans son commentaire. Joël ne met pas l'accent sur l'acquisition d'une connaissance nouvelle grâce au don de l'Esprit, mais sur la capacité de faire connaître le Seigneur. Le prophète parle. Il annonce les choses. Il annonce les merveilles de Dieu. Et dans ce sens-là, nous sommes tous croyants, possesseurs du Saint-Esprit, des prophètes. Dans ce sens-là, nous sommes tous des prophètes. Je ne sais pas si on est bien conscient de la portée de l'accomplissement de cette prophétie. J'ai regardé quelques fonctions du Saint-Esprit dans le grand dictionnaire de la Bible, et je voudrais juste vous les citer. C'est loin d'être exhaustif, j'en ai juste pris quelques-unes. Le Saint-Esprit, c'est lui qui incorpore les croyants au peuple de Dieu. Déjà, rien que ça, c'est pas rien. C'est lui qui pousse à l'adoration. C'est lui qui rend efficace notre témoignage. Il prie à travers nos soupirs dans la détresse. Il transforme les croyants tout au long de leur vie. Il produit de nouvelles motivations et le désir profond d'obéir à Dieu. Il procure la joie. Il nous unit de façon intime à Jésus-Christ. Il donne un libre accès à la présence divine. C'est-à-dire qu'en fait, ça en est fini du temple. Maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous rend capables de recevoir et de comprendre la parole de Dieu. Il garde les croyants dans la vérité, dans la mesure où il s'attache à l'enseignement des apôtres. Il renouvelle notre intelligence. Et s'il veut renouveler notre intelligence, c'est qu'il veut qu'on s'en serve. Notre responsabilité, c'est de nous discipliner. Notre responsabilité, c'est de nous former. Nous sommes responsables de notre formation. Nous sommes responsables de notre discipline. Quelle est l'action du Saint-Esprit ? C'est qu'au moment où on va ouvrir notre bouche pour témoigner, c'est lui qui va rendre efficaces nos paroles. Le Saint-Esprit donne l'efficacité. Est-ce que je proclame les merveilles de Dieu ? Je suis tellement au bénéfice, dimanche après dimanche, des prières des frères et des sœurs qui sont centrés sur Dieu, sur qui il est, sur ses attributs, sur ses caractères, sur combien il est grand, sur combien il est bon. Des prières qui proclament les merveilles de Dieu lui-même. Et je suis au bénéfice de ça. Est-ce que nous sommes des témoins qui parlent ? Bien souvent, on insiste beaucoup sur notre témoignage de vie, sur notre attitude, sur notre comportement. Il faut évidemment que l'on puisse témoigner par notre éthique, par notre comportement lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est à l'université, où que ce soit qu'on est placé. Il faut qu'on témoigne de cette manière-là. Mais vous savez quoi, les amis ? Un prophète, il parle. Votre comportement ne suffira jamais. Il y a un moment où il faut ouvrir la bouche et parler. Parler pour dire quoi ? Parler pour dire qui est Jésus-Christ ? Combien il est venu sur cette terre pour réconcilier cette relation qui était brisée entre Dieu et moi ? Est-ce que nous sommes des témoins qui parlent ? C'est pour ça aussi que le Saint-Esprit nous a été donné. Je vais très vite maintenant. Dans la suite du texte, il y a un jugement dont Joël nous parle, qui se manifeste par des aspects cataclysmiques. Et ce jugement, je n'en parle pas énormément parce que dans la suite du texte, les deux frères qui vont me succéder dans la prédication auront l'occasion de réaborder cette question du jugement. Mais les termes qui sont utilisés ici sont des métaphores qui sont utilisées pour reprendre aussi des termes qui étaient utilisés dans Joël 2 au verset 10 notamment, où il y a ce ciel qui est obscurci par cette nuée de sauterelles, où il y a tellement de choses qui se passent et qui sont des choses qui sont vraiment terribles. Et dans ce texte, on a l'impression qu'il n'y a pas de transition entre l'effusion de l'esprit et puis d'un coup, bim, jugement. Et on ne comprend pas quel est le lien, en fait, au premier abord. On se dit, ouais, il est passé, il a sauté le chapitre, il est passé à autre chose. Et pourtant, Pierre, dans Acte 2, il dit aussi que cette partie-là est accomplie. Il dit aussi que ça aussi, ça a eu lieu. Et la Pentecôte vient se rattacher à l'œuvre de Christ. C'est une continuité entre ce qui s'est passé dans le ministère de Christ, la croix, la résurrection, la Pentecôte. C'est un bloc qui a eu lieu. De Jésus-Christ qui vient sur cette terre, Jésus-Christ qui meurt, qui ressuscite, qui retourne auprès du Père et qui envoie son Saint-Esprit. Et ça, ça ouvre une grande ère, l'ère de l'Église. La Pentecôte vient se rattacher à l'œuvre de Christ. Est-ce que, et là je fais appel un peu à vos connaissances, on ne va pas relire les textes, mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand Christ est mort ? Tremblement de terre, ciel qui s'obscurcit. Est-ce que vous vous souvenez quand Christ est ressuscité ? L'ange roule la pierre, tremblement de terre. Quand le Saint-Esprit est donné aux disciples, qu'est-ce qui attire les pèlerins qui sont de passage ? Un grand bruit. Un vent violent qui était là, encore une sorte de cataclysme qui est là, quelque chose qui se voit, qui est manifeste. qui est là, qui se voit. Et nous, on peut être en extase devant ces cataclysmes, en réalité. Mais ce que le prophète Joël est en train de dire ici, c'est que ces cataclysmes, ce sont des jugements. Quand Christ est mort, c'est un jugement. Quand Christ est ressuscité, c'est un jugement. Quand le Saint-Esprit vient sur les disciples, quand le Saint-Esprit vient sur les croyants, c'est un jugement. Et la croix a déclenché une sorte de compte à rebours vers le jugement final qui aura lieu et qui sera le jour où l'Éternel reviendra juger la terre. Pourquoi est-ce que la Pentecôte est un jugement ? Vous avez vu que le Saint-Esprit, dans Acte 2, il vient sous forme de langue de feu. Et c'est une symbolique qui n'est pas prise au hasard, parce que la langue, eh bien justement, c'est que ça fait de ses disciples des prophètes, des gens qui vont adorer et qui vont témoigner de Jésus-Christ, qui vont parler, qui vont propager le message de l'Évangile. Ça, c'est la langue. Mais cette langue, ce témoignage qu'ils vont donner, c'est du feu. Et le feu, c'est l'une des caractéristiques du jugement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un témoignage qui sera donné de l'Évangile de Jésus-Christ et que l'interlocuteur refuse d'accepter ce message, c'est un jugement qui est prononcé. C'est lourd de sens. On s'émerveille devant ces choses. Mais en réalité, c'est tellement lourd de sens. C'est tellement lourd de sens. Leur témoignage sera un jugement. Un chrétien, aujourd'hui, est un outil de jugement. Est-ce que ça fait qu'il faut se taire ? Certainement pas. Il faut parler, parce que c'est comme ça que les personnes qui nous entourent, qui nous environnent, entendront parler de l'Évangile. C'est comme ça aussi que le Seigneur va pouvoir les attirer à eux. Il faut parler, il faut témoigner de l'Évangile. Mais lorsqu'une personne refuse, nos mots sont un jugement contre lui. Langue de feu. Et tout ça aura une fin. Et cette fin, le prophète Joël l'appelle le jour de l'Éternel, grand et terrible. Les amis, ce qui se prépare est grand et terrible. L'œuvre de Christ est à double tranchant. Elle est une bénédiction pour les croyants. Elle nous sauve, mais elle est un jugement pour les non-croyants. C'est une catastrophe pour ceux qui refusent de donner leur vie à Christ. On doit parler. On doit parler. On doit dire autour de nous qu'il y a une et une seule solution, c'est Jésus-Christ. C'est criminel de ne pas parler. C'est un refus du ministère que le Saint-Esprit fait en nous lorsqu'il nous a été donné le jour de notre conversion. C'est pas normal de ne pas parler. C'est pas normal de ne pas présenter le message de l'Évangile. On doit ouvrir nos bouches et témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ. Et vous savez quelle est la bonne nouvelle ? C'est que le salut est en l'Éternel. C'est-à-dire que le salut est encore possible. On doit l'annoncer. On doit l'annoncer. C'est une urgence. Si ce jugement qui va s'abattre peut-être sur vos amis, sur vos collègues de travail, sur vos voisins, peut-être même sur des membres de votre famille, ne vous fait rien, humiliez-vous. Repentez-vous devant le Seigneur. Si ça ne vous touche pas, si vous êtes ballant les mains dans les poches à regarder ça et de dire ben, le grand jour va arriver et que ça ne vous touche pas, repentez-vous. Humiliez-vous. J'ai été brisé par ce texte et par mon attitude qui parfois, je laisse couler. Les amis, ce qui attend ces personnes, c'est l'enfer. Je dois parler. Et c'est une magnifique nouvelle que la manière dont le prophète Joël conclut le salut est en l'Éternel. Le salut est en l'Éternel. Il est encore possible. Toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Et je termine simplement sur ce verset. Toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Dans Romains 10, c'est l'apôtre Paul qui a été l'apôtre chargé justement de présenter l'Évangile aux païens Ils se sont séparés les tâches, les apôtres, ensuite, quand ils ont compris de dire « mais il faut présenter ça à toutes les nations, c'est urgent, ça urge, il faut y aller ». Et l'apôtre Paul, qui était en charge plus particulièrement avec d'autres de présenter ce message de l'évangile aux païens, aux ceux qui n'étaient pas juifs d'origine, dans Romains 10, au verset 13 et 14, il dit « il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, parce que tous ont le même Seigneur qui se montre généreux. Il est généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, et il reprend Joël, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Je termine juste en disant que s'il y a ici des personnes qui ne bénéficient pas encore de cette paix, de cette sécurité, que d'avoir confié leur vie à Jésus-Christ, que d'avoir été bénis par le don du Saint-Esprit, s'il vous plaît, retenez ce verset. Toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Et si vous voulez qu'on prie pour vous, avec vous, qu'on vous accompagne dans cette démarche, s'il vous plaît, venez nous voir. Venez me voir à la fin du culte. Venez voir Ricardo. Venez voir l'un de nous. Ne laissez pas passer cette occasion. Ce qui se présente est terrible. Mais celui qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvé. Amen.